Et pendant ce temps-là, les combats continuent. Or, une course contre la montre est engagée pour tenter d'obtenir une cessation des combats et des bombardements quelques jours avant le début du Ramadan. Tout cela sur fond de pression internationale en raison du drame humanitaire donc dans l'enclave palestinienne. Cyril Payen, pourquoi est-ce que les partis ne parviennent pas à se mettre d'accord comme en novembre dernier ?
Il y a déjà une question technique d'importance. Si les deux belligérants sont au centre d'une énorme mobilisation des intermédiaires internationaux au Caire, Doha, Paris ou Washington, la réalité sur le terrain, dans l'enclave palestinienne, fait que les communications sont souvent difficiles, téléphone ou Internet fréquemment coupés de longues heures durant. Aussi, de l'aveu même des négociateurs du Hamas, il faut parfois 24 à 48 heures au bureau politique au Qatar pour entrer en contact avec son aile militaire dirigée par Yahya Sinwar et Mohamed Deif, chef des brigades Ezzedine Al-Qassam, ceux-là même qui ont lancé l'opération Déluge d'Al-Aqsa sur Israël le 7 octobre, toujours introuvable et sans doute retranché dans les tunnels de Khan Younes dans le sud de la bande. Ensuite, bien sûr, la pression constante de l'offensive israélienne, terrestre, navale et surtout aérienne, rend la situation extrêmement volatile.
Et pourtant, ce n'est plus un secret, un plan existe bel et bien.
Le paradoxe tragique face à l'urgence est que les deux parties sont presque d'accord. C'est le plan de Paris qui a été mis sur la table mi-février sous impulsion française avec le concours du cher Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar, l'intermédiaire numéro un dans tous les conflits au Proche-Orient, qui a un temps laissé planer un vent d'optimisme parmi les protagonistes des services de renseignement comme William Burns de la CIA ou David Barnea du Mossad, jusqu'à pousser le président américain Joe Biden à annoncer, un peu vite, une trêve imminente. Ce plan prévoit trois périodes successives de cessez-le-feu de 45 jours. La première permettrait la libération d'un otage par jour, femmes et personnes âgées, en échange de plusieurs prisonniers palestiniens. La seconde impliquerait la libération des réservistes et la dernière, sans doute la plus compliquée, les soldats israéliens. Ce qui sous-entend bien entendu une hausse des enchères dans le ratio otages-prisonniers. Mais le véritable point de discorde reste l'exigence du Hamas d'obtenir un cessez-le-feu définitif, impensable pour le cabinet de guerre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui joue lui-même sa survie politique avec une guerre qui n'a donc pas l'intention de cesser.
Et donc 5 mois ont passé, le calvaire des otages continue alors que Gaza se transforme en un champ de ruines.
Les rares témoignages qui sortent de la bande de Gaza renvoient jour après jour une image d'horreur. L'un des territoires les plus densément peuplés de la planète livré au chaos, à la mort et à la famine. Dans sa fuite en avant vengeresse, l'armée israélienne applique la stratégie de la terre brûlée, abolissant la distinction entre combattants et civils. Gaza n'a plus d'avenir. Et alors que les centaines de milliers de déplacés internes redoutent la grande offensive sur Rafah et le sud de l'enclave, le Hamas n'est même pas en mesure de confirmer aujourd'hui combien d'otages du 7 octobre sont en vie parmi les 130 encore captifs.